parce que nous avons la ferme assurance que notre prière est exaucée. Dans le nom de Jésus-Christ, amen.
Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin ? Oui, ça va. Où est-ce que vous en êtes ce matin avec Dieu ? Où est-ce que vous en êtes ce matin avec Dieu ? Est-ce que des fois on ne se moque pas de Dieu ? Est-ce que des fois on ne laisse pas beaucoup trop de choses nous éloigner de Dieu ? Où est-ce que tu en es ce matin avec Dieu ? Quelle place a-t-il pour toi dans ta vie ? Comme ça a été dit, est-ce que tu viens par religiosité ? Vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne blaguait pas avec la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, pour éviter que tu meures, je vais te donner des recommandations pour que tu puisses entrer dans ma présence. Dieu est vivant. Ceux qui doutent encore que le Dieu de la parole, c'est celui qui est créateur de toutes choses, Dieu est vivant et puissant. Et Dieu ne blague pas. Dieu est amour, mais Dieu ne blague pas. Ce matin, mes frères et sœurs, je parle premièrement à moi-même. Et c'est un encouragement. C'est un encouragement d'entendre ces paroles. Que Dieu est un Dieu saint, parce que c'est ce qu'il est. Et nous ne pouvons pas nous présenter devant lui n'importe comment. Où en es-tu avec Dieu ce matin ? Où en es-tu avec Dieu ce matin ? Je vais laisser un petit temps où chacun d'entre nous, nous pourrons nous examiner devant le Seigneur, l'Éternel. Tu dis vouloir grandir, mais tu n'écoutes pas ce que l'Éternel te dit. Tu dis vouloir avancer, mais tu n'écoutes pas ce que l'Éternel te dit. Tu dis vouloir être délivré, mais tu n'écoutes pas ce que l'Éternel te dit. Tu dis vouloir vivre des victoires, de victoire en victoire, mais tu n'écoutes pas ce que l'Éternel te dit. Tu utilises Dieu, on n'utilise pas Dieu. Tu te soumets à Dieu, tu inclines le genou devant lui et tu reconnais qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pour qui te prends-tu, homme, femme, petit souffle ? Ne sais-tu pas que l'Éternel peut te prendre le souffle en un instant ? S'il te tient encore en vie, c'est sa grâce. S'il te nourrit, c'est sa grâce. S'il te manifeste sa bonté, c'est sa grâce. Est-ce par tes actions que tu peux obtenir quelque chose de l'Éternel ? Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. Car lui a tout accompli et il règne en maître. Sois béni, Père, et vraiment que ta parole puisse impacter nos vies. Oh oui, Dieu de gloire, Dieu de victoire, sois élevé en cette matinée. Fais silence en nos cœurs. Amen. Jésus sauve. On parle beaucoup de Jésus, mais c'est un aspect même de Jésus, des fois qu'on oublie, que Jésus sauve. Et c'est même une répétition. Pourquoi ? Parce que Yeshua, Jésus, signifie l'Éternel sauve. L'humanité crie, l'humanité pleure. L'humanité se rend compte vraiment de l'œuvre de l'ennemi en allumant simplement la télévision ou en vivant ce que nous vivons dans nos familles. Nous nous rendons compte comment l'ennemi se déchaîne. L'humanité pleure, l'humanité crie, l'humanité cherche des solutions. Cependant, l'Éternel sauve. L'humanité cherche des solutions, cherche à droite, cherche à gauche. Mais le message du ciel redescend et retentit. L'Éternel sauve. Personne ne veut de Jésus-Christ. Tout le monde cherche partout. Toi-même qui es chrétien, tu te débats toi-même. Dans tes propres difficultés, tu cherches une solution. Mais l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Mais ce n'est pas le fait de le dire qui va te sauver. C'est le fait que tu le vives et que tu sois en communion avec Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour sa parole. L'Ancien Testament, en relisant le peuple d'Israël et sa sortie d'Égypte, et en relisant toutes ces choses, on voit que tout est spirituel. Ça s'est bien passé, mais c'est une réalité spirituelle. Il est dit dans Exode, au chapitre 1, au verset 8. Je vous laisse le temps de chercher, si vous le souhaitez. L'appel de Dieu, la bonté de Dieu. Exode 1, verset 8. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Python et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors, ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Chifra et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Est-ce que vous croyez que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel? Il est dit dans Genèse, 1 au verset 28. En parlant de Adam et Ève, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez. » Dieu les bénit en disant « Soyez féconds. » Moi-même, ça m'a parlé parce que, au vu de la société, le fait d'avoir des enfants, presque ça devient une corvée. En tout cas, on ne voit pas toujours la bénédiction. Plus on en a, au lieu de dire « plus t'es béni », plus « oh, waouh, c'est chaud ». Mais ça reste une bénédiction de Dieu. Il l'a dit dès l'origine. Soyez bénis. Je vous donne ma bénédiction. Soyez féconds. Et en fin de compte, on voit ce peuple d'Israël. Ben, la bénédiction de Dieu, en tout cas, se manifeste par un nombre croissant d'enfants. Et du coup, eux-mêmes commencent à se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Nous-mêmes, on n'arrive même pas à avoir autant d'enfants. Parce que là, c'est la main de Dieu qui agit. Et ils ont commencé à l'accabler. Ils ont commencé à durcir les choses parce qu'ils avaient cette crainte. Et frères et sœurs, hormis les enfants, nous avons cette bénédiction de Dieu qui coule en nous. Et l'ennemi ne prend pas plaisir en ça. Donc, sois pas surpris s'il y a un lourd fardeau qui est à ta porte. Si tu as un lourd fardeau dans ta famille, s'il y a des choses terribles que tu es en train de vivre, parce que Dieu est en train de te bénir. Et l'ennemi le voit. Et l'ennemi ne supporte pas ça. Et l'ennemi sent qu'il va passer de l'autre côté et que toi, tu vas partir. Alors il t'accable. C'est un encouragement. Si tu es accablé, si l'ennemi vient frapper à ta porte, s'il vient faire tout un tas de choses dans ta famille, sois confiant parce que l'Éternel te bénit. Il te bénit. Et plus il te bénit, plus l'ennemi va vouloir t'attaquer et te mettre la confusion dans ta vie. Dieu soit loué. Ces femmes ont craint l'Éternel plutôt que l'ordre du Pharaon. Et les enfants ont pu naître. Il veut t'accabler, il veut détruire, il veut même te tuer. Il voulait tuer ce peuple, durcir pour tuer. Mais l'Éternel a fait grâce. L'ennemi se dresse devant toi avec tout un tas de choses dans ta pensée. Accroche-toi à la parole. L'Éternel fait grâce et l'Éternel sera ta délivrance. L'Éternel sauve. C'est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu n'as rien fait pour ça. Dieu a choisi Abraham. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a appelé. Ça ne dépendait pas de lui. Hein. L'Éternel s'est révélé, il a appelé. Et il a béni, il a mis cette source de bénédiction. Mais cependant, toi, tu dois aussi faire quelque chose. On arrive au chapitre 2, au verset 23. Ils vivent en même temps cette bénédiction, ils vivent en même temps ce poids des ténèbres autour d'eux, cette main de fer qui veut les accabler, les détruire. Et il est dit au chapitre 2, verset 23, « Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb. Juste pour ceux qui ne savent pas, donc Abraham, le père des croyants, celui qui a eu confiance en Dieu parce qu'il l'avait appelé. Voilà, un peuple émane de lui et il est opprimé par le Pharaon. Et Dieu suscite un sauveur, en tout cas un prophète, un homme qui parlera en son nom devant le Pharaon pour accompagner ce peuple à la délivrance. Donc je reprends Moïse, chapitre 3, verset 1, faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb. Quelle est la signification de Horeb? Vous l'avez dans les commentaires. Désert, désolation. Amen. Moïse se déplace dans le désert, la désolation. Et qu'est-ce qui s'y passe? La montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là !» répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Dieu se manifeste, Dieu intervient au milieu de la désolation et du désert. Il s'est révélé à Moïse. Magnifique de voir que Moïse part, emmène son troupeau. Et il y a toute une préfiguration de toute manière d'un peuple, voilà, qui passe par la désolation, mais où dans la désolation, Dieu l'Éternel se révèle. Et on parlait souvent de ça, notamment par rapport à la délivrance que l'Éternel veut accorder dans nos vies, qu'elle passe par un cri, qu'elle passe par une supplication devant Dieu. Si tu n'as pas envie d'être totalement délivré de tout ce qui te retient, l'Éternel te laisse. Mais si tu cries à lui, si tu désires ardemment vivre ce qu'il veut te donner, alors l'Éternel entendra et écoutera. Persistes-tu dans les combats que tu mènes? T'accroches-tu au nom de Jésus pour avoir cette grande victoire sur l'ennemi? On va ouvrir au chapitre 7 de Exode toujours. Au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. » Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel le déclare, « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. » Et ensuite, il y a toute une démonstration de puissance avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu, vraiment, dans la préparation de ce temps, il n'a rien mis d'autre que le fait « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. » Ça, c'est ce que Dieu adresse à l'ennemi. Ils m'appartiennent. Tu les laisses partir. Tu le laisses partir. Ils m'appartiennent. Il m'appartient. Tu le laisses partir. Je t'ordonne, tu le laisses partir. Mais vraiment, l'encouragement, c'est que le pharaon, ce n'était qu'un homme. Alors d'autant plus, dites-vous comment l'ennemi, même s'il agit aussi à travers les hommes et les femmes, eh bien, combien l'ennemi lui-même, il doit résister. Et on voit même dans les 10 plaies, les deux premières plaies, plus ou moins les magiciens qui entourent le roi arrivent plus ou moins à rivaliser. Ça veut dire, Moïse, par la puissance de Dieu, fait deux fléaux. Alors, il y a les grenouilles et puis l'eau changée en sang. Et eux, ils arrivent à s'aligner. Sauf qu'après, ça monte en intensité. Ah, là, tu commences à comprendre que l'ennemi, il a ses limites. Il est plus puissant que toi humainement, puisqu'on est, on est charnel. Mais dès qu'il commence à avoir une bataille sérieuse, quand tu invoques le nom de Dieu, la bataille commence à être sérieuse. Avant, si tu n'invoques pas le nom de Dieu, ben, continue dans tes trucs. Mais si tu invoques le nom de Dieu, alors la bataille commence à prendre une vraie tournure. Et là après, oh, même eux, ils sont dépassés. À mon avis, parce que l'Égypte, c'était la grande puissance. Donc, ils devaient toucher à des trucs. Ils devaient invoquer l'ennemi. Ils devaient faire des choses. Mais là, au bout du deuxième, disqualifiés. Ils n'arrivent plus. Oh, et eux-mêmes commencent à dire, non, là, c'est la main de Dieu. Arrête, Pharaon, arrête. Ceux qui touchent le domaine spirituel, des fois, se rendent plus compte de la puissance de Dieu que nous, des fois, qui sommes bien terre à terre. Et ça monte en intensité, et ça monte en intensité. Et le pharaon se rebelle. Mais lui-même a déjà endurci son cœur. Lui-même a déjà son jugement. Satan a déjà son jugement. Il est endurci. Il n'a pas possibilité de repentance. Sa condamnation est déjà faite. Chapitre 10, verset 21. Le neuvième fléau, les ténèbres. Que des parallèles qui reprennent l'arrivée de Jésus. Son sacrifice à la croix. Les 3 jours. Les 40 jours dans le désert. Les 40 ans pour le peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, verset 21. Lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doive y tâtonner. Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Les Israélites n'avaient pas encore la loi, n'avaient pas encore la connaissance de Dieu, n'avaient pas encore toutes ces choses-là. Dieu a simplement appelé, comme il t'a appelé. Et il manifeste que son appel a une grande valeur. Il te distingue parmi tous ceux qui t'entourent. Ce fléau qui arrive, une évidence spirituelle qui remonte à la surface. Les Égyptiens, du coup, avaient des choses qu'on peut dire bonnes aux yeux du monde, puisque même le peuple d'Israël voulait y retourner, parce qu'ils avaient de la bonne nourriture, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient abondantes. Mais il met en évidence une réalité spirituelle. Tout ça n'est que ténèbres. Tout ça n'est que diabolique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à la vie que je donne en abondance. L'ennemi peut laisser paraître des choses. Et je crois aussi que Dieu, dans sa grâce, laisse paraître des choses qui semblent bonnes. Mais ce qu'il y a au fond de tout ça, la source de tout ça, les ténèbres qui remontent. Mais toi, tu as été appelé à être cette lumière. Tout le pays était dans les ténèbres. Mais le peuple était dans la lumière. On arrive à la Pâque, au chapitre 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine, la plus proche en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose, jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons et vous serez, je serai sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Amen. Ce qui m'a interpellé, donc, on est vraiment là sur le sacrifice de Jésus à la croix qui nous libère, qui a la puissance. Où là, c'est même plus Dieu ou Moïse qui part pour dire « laisse aller ». Là, direct, c'est lui-même qui renvoie le peuple. Et il lui donne même tout. Parce que les Égyptiens devaient leur donner de leur richesse et tout pour les bénir. Et quand Jésus-Christ intervient, quand son nom est invoqué, l'ennemi n'a d'autre choix que de laisser partir. Et là, il le fait avec un empressement parce qu'il sait. Il sait la puissance de son Créateur. Mais ce qu'il est important quand on invoque le nom de Jésus, c'est la communion qu'on a avec Jésus-Christ. Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, mais ils ont mangé. Ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon corps. Prenez. On peut invoquer le nom de Jésus, mais la communion. Il est même dit aussi dans 1 Corinthiens, le fait que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les idoles. Bien que les idoles ne sont rien, mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les idoles. Parce qu'ils sacrifiaient pour des idoles, ben des bêtes. Et ce qui marque bien qu'il y a une communion. Lorsque même on prend la scène, on est en communion. Communion en quoi ? Ça veut dire qu'on comprend que c'est Jésus-Christ qui a accompli tout ce que l'Éternel désirait qu'on puisse accomplir. Il est l'exemple parfait. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc tu ne peux pas t'approcher et tu ne peux pas vivre une pleine libération si tu n'es pas pleinement en communion avec lui. Si tu n'es pas conforme en sa mort dans la chair, pour être vivant par l'Esprit Saint. La communion, c'est pas tout de dire Jésus au nom de Jésus. Quelle est ta communion? Comment tu prends part? Comment tu saisis ce que le Seigneur a fait pour toi? Et à partir de là, cette main puissante tendue, le doigt de Dieu, ce sang qui coule et qui nous pardonne de nos fautes et qui nous permet d'être vus par Dieu d'un regard nouveau, le peuple part. Le peuple s'apprête à traverser la mer. Chapitre 14, verset 11. Verset 10, toujours dans Exode, et ce sera le dernier texte. Le Pharaon s'était rapproché en regardant au loin. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur dit: n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Est-ce qu'on n'est pas vraiment de cette manière? Cette confession du peuple devant l'adversité, malgré que Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance, ils ont vu toutes les plaies et ils ont vu la manière dont le Seigneur les a mis à part. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Waouh, ça a du sens, ça. Alors qu'on a vu tout au début la manière dont ils s'acharnaient. Laisse-nous tranquilles. Mais c'est ça. Parce que tu prends plaisir dans beaucoup de choses. Dieu veut t'accorder la délivrance. Et tu lui résistes. Dieu veut t'accorder la délivrance et tu lui résistes. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. C'est là ton souhait? Tu désires être l'esclave de celui qui veut juste te tuer, de celui qui veut juste te détruire? Mais tu crois que il est en train d'ériger pour lui toute une gloire qui va voler en éclats au retour de Jésus-Christ, et le peuple sera nombreux qui va le louer parce que Dieu est fidèle et sa parole est puissante. Mais comme eux, ils contribuent à la gloire du Pharaon, en fait, tout l'esclavage qu'ils avaient, c'était quoi? Hey, ils construisent, ils glorifient cet homme, ils l'élèvent. Il transpire. Et toi-même, tu transpires. Tu transpires pour l'ennemi. Tu t'en rends même pas compte. Tu œuvres pour lui, pour sa gloire. C'est lui que tu veux glorifier. Ta personne, tout ton être, c'est à lui que tu veux le donner. Je te dis, l'ennemi n'en a rien à faire de toi. Il veut juste, l'intérêt, c'est juste de te détruire, de t'exterminer, de te faire passer à côté de ce que l'Éternel veut te donner. Tu veux encore le servir, tu veux encore transpirer pour lui, tu veux encore t'accabler pour lui, pour l'élever. Il n'est pas assez élevé à l'extérieur pour que dans l'église même, tu continues à l'élever. Est-ce qu'il n'est pas déjà glorifié à l'extérieur pour que toi, croyant, tu continues à l'élever? Est-ce que Dieu n'est pas attristé de ce que tu es en train de faire, toi ici dans ce lieu? Es-tu en train de te moquer du Dieu vivant? Dieu te fait grâce. Mais Dieu appellera son peuple au jugement. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui te permettra d'aller en cette terre promise. Que beaucoup parmi le peuple, malgré tout ce qu'ils ont vu, n'ont pas pu saisir. Lesquels qui ont pu le saisir? Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas par ce que tu essayes de faire. C'est ceux qui ont eu foi, ceux qui n'ont pas craint devant l'adversité. Mais c'est ceux qui avaient leur confiance en Dieu, qui savaient que Dieu est tout puissant pour les faire rentrer là où il n'y a aucune porte, là où pour toi c'est impossible, là où pour toi la montagne est trop haute. Oui, il y a peut-être des choses qui tiennent ton corps, des addictions, peut-être des choses qui sont là, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ t'ouvrira une porte vers la libération pour que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et que tu sois cette lumière au milieu des ténèbres. Laisse-les dehors. Laisse-les dehors. Tu vois où tout ça s'amène. Tu vois où tout ça s'amène. Tu le sais. Laisse-les. Confie-toi en l'Éternel. Lorsque le juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Merci mon frère, tu le répètes presque chaque dimanche, mais merci. Quel est celui qui est juste? Il a dit que Abraham était justifié. Pourquoi? Parce qu'il a eu foi. Tu cherches bien des choses, mais c'est la foi en Dieu, au travers de Jésus-Christ. J'avais pris cette valise comme un symbole.
Et en même temps, ça permet de voir. Alors, c'était plus pour l'évangélisation. On avait fait ces t-shirts et j'ai demandé à ma sœur, du coup, de le ramener. Et j'ai dit, ouais, c'est un beau rappel. Parce qu'à chaque fois que, voilà, il y a des passages qui sont dits, Jésus sauve. Tu le vois et tu le sais. Et aussi, viens tel que tu es. C'est pourquoi j'ai pris cette valise, comme le peuple d'Israël aussi, pour dire maintenant, viens, change de destination. Quitte là où tu es pour partir dans les contrées du Seigneur. Viens tel que tu es. Tu as peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires. Peut-être des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur t'accueille. Le Seigneur te dit, viens, je vais t'accompagner. S'il y a quelque chose à enlever, c'est moi qui vais l'enlever. Confie-toi en moi, viens tel que tu es. Ne cherche pas à vouloir déjà, oui, il faut que j'enlève ça, ceci. Viens tel que tu es. Et dans la présence de Dieu, il fera monter les choses qui ne sont pas à sa gloire. Et ainsi, tu pourras lui dire, oui, Père, c'est toi que j'ai décidé de suivre. Oui, c'est à toi que j'abandonne ces choses, parce que tu m'aimes. Parce que tu es mon Père. Oh, je te loue, Seigneur, pour ta parole. Je te loue parce que tu es un Dieu vivant. Ce matin, plus que les mots, plus que tout ce qui a été dit, c'est un appel pour vous. C'est un appel pour moi. Je demande vraiment aux frères et sœurs de se tenir dans la prière. Si
Joël, tu peux venir aussi pour... pour te laisser conduire par, par le Seigneur. Qu'on puisse se mettre dans une attitude de prière. Que cette parole ne soit pas vaine ce matin pour nous, mais qu'elle puisse porter du fruit pour nos âmes. Ô Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Jésus, tu nous aimes. Ô Dieu de gloire, nous élevons notre voix vers toi pour te dire combien nous t'aimons. Sois élevé, sois béni. Si nous nous réunissons, c'est pour te donner gloire ce matin, ô Dieu. Car tu es vivant à jamais. L'ennemi ne peut rien devant toi. Tu es glorieux. Tu as la puissance de relever ton peuple. Tu as la puissance de le faire traverser. Tu as la puissance d'ouvrir ce chemin. Tu ouvres la voie pour la libération des âmes, Père, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie pour la gloire de ton nom. Sois béni, ô Père. Telle est ta volonté pour nos vies. Tu as tout donné. Oh, ce matin, frère ou sœur, ce matin, peut-être toi qui ne connais pas le nom de Jésus, celui qui sauve, que tu puisses te lever. Tu ne te lèves pas devant un homme, tu ne te lèves pas devant une assemblée. Mais tu te lèves devant le monde spirituel où Dieu trône en maître. Oh, s'il y a quelque chose dans ta vie qui te retient de servir l'Éternel, peut-être doutes-tu que tu pourras en sortir. Lève-toi et marche. Manifeste devant le monde spirituel que tu as décidé de suivre Jésus-Christ et lui seul. Tu es peut-être en proie à des tourments. Peut-être dans ton cœur, y a-t-il de la colère contre Dieu. Lève-toi et viens. Parle à Dieu. Il va guérir ton cœur. Il va guérir tes meurtrissures. Reçois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Peut-être es-tu en lien avec tout ce que le monde te propose, avec toutes ces choses qui t'attirent vers la destruction de ton corps et de ton âme. Oh, tu vois ce que tu regardes. Si tu regardes des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, si tu regardes des hommes et des femmes faire des actes de pornographie et que tu es lié à ça, le Seigneur veut te libérer. Lève-toi et viens. Viens goûter à la délivrance du Seigneur. Oh Jésus, tu nous aimes. Toi qui as cet orgueil, toi qui as cet orgueil en toi, toi qui te crois supérieur des autres, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Viens. Lève-toi et viens. Goûte la bénédiction du Père pour ta vie. Toi qui cours après l'argent, toi qui regardes à ton apparence tous les jours, laisse et viens devant le trône de grâce. Être libéré, être sauvé. Viens. que tous ceux qui souhaitent et qui ont besoin de libération et qui souhaitent qu'on puisse prier pour eux ce matin, qu'ils puissent se lever et venir devant. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle et veut te libérer. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Lève-toi et viens. Ne crains pas, oh souffle de Dieu. Viens. Viens. Viens goûter à la délivrance du Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons ce frère qui est devant. Que le peuple de Dieu puisse prier. Élever sa voix pour ces personnes qui viennent, qui recherchent la présence de Dieu, qui recherchent la libération des âmes. Prions, prions, prions. Il y a un combat. Tu veux nous libérer. Oh, soyez bénis.
Car tu libères, tu peux être puissant, éternel. Tu as toute puissance, Seigneur Jésus-Christ.
Jésus.
Tu viens et tu sauves, oh éternel. Éternel Dieu, tu n'es pas un Dieu mort, oh Jésus-Christ. Tu es un Dieu vivant, oh Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus.
Amen,
ce matin,
Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, pour toute libération, oh Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Je te prie pour leur vie, oh Seigneur Jésus-Christ, pour la transformation, oh Seigneur Jésus-Christ. C'est ton nom que nous élevons, Seigneur Jésus-Christ, car ton nom a été élevé au-dessus de toute autorité, oh Seigneur
Amen.
Jésus-Christ. Au-dessus de toute puissance, Seigneur Jésus-Christ, à toi l'adoration, Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Nous prions pour ces personnes, nous les élevons devant
Amen.
Toi, Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, en toi est la libération, Jésus.
Amen.
En toi est la libération, en toi, Seigneur Jésus, est la vie, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus-Christ, est la plénitude, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus-Christ, tu changes toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, tu nous donnes une nouvelle nature, oh Jésus-Christ.
Amen. Amen.
Ô éternel Dieu, merci pour ces personnes qui ont osé se lever.
Oh Jésus.
Amen.
Qui ont décidé de déclarer qu'ils voulaient changer, Seigneur
Amen.
Jésus. Je te prie pour elles parce que je sais que là tu les vois, Seigneur Jésus. C'est que tu agis, Seigneur Jésus. Où l'ennemi est vaincu, Seigneur Jésus.
Amen.
Il est vaincu, nous t'avons vu, Seigneur
Amen.
Jésus. Il passe des ténèbres, Seigneur Jésus.
Amen. 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 Amen.
Qui veulent manifester, Seigneur Dieu, qu'elles ne veulent plus être esclaves de l'ennemi, Seigneur Dieu. Je sais que d'un mot, Seigneur Dieu, tu peux faire tomber leurs fers et les chaînes et tout ce qui les retient, Seigneur Dieu. Et je te demande, Seigneur Dieu, de préserver, de garder, Seigneur Dieu, leur volonté de te servir, d'être consacré à toi, Seigneur Dieu. Et que tout ce qui les tient, tout ce qui les retient, Seigneur Dieu, toutes les blessures, Seigneur Dieu, toi, Seigneur Dieu, tu veux que cet endroit, cette église soit un lieu de guérison, de restauration,
amen,
Seigneur
amen.
Dieu. Alors restaure le cœur de ces personnes, Seigneur Dieu. Restaure leur cœur, Seigneur Dieu. Prends soin d'elles, Seigneur, je t'en prie. Relève-les, Seigneur Dieu, et que par ta puissance, elles soient libres. Nous proclamons la liberté, Seigneur, pour eux. Nous proclamons la vie de Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur âme, leur corps et leur esprit. Éternel, relève ces âmes, Seigneur Amen. Dieu. Touche leur cœur, Seigneur Dieu, et fais des disciples, Seigneur Amen. Dieu. Fais des disciples, Seigneur. Merci parce que tu les libères et que devant l'ennemi, Seigneur Dieu, ils puissent, Seigneur, rester accrochés à toi, se soumettre à toi, résister à l'ennemi. Et nous savons, Satan, que tu n'as aucun autre choix que de fuir loin d'eux parce qu'ils se consacrent à l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur qui accomplit des délivrances parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Amen, Amen. Enfant aussi, enfant qui vit peut-être quelque chose de difficile et qui veut expérimenter la puissance de Dieu, ce temps vous est aussi ouvert. Oh Jésus.
Christ, amen.
Seigneur, continue sans défi, continue à nous parler, Seigneur. Continue à nous parler. Que nous soyons être vigilants, Seigneur. Même nous, Seigneur, qui nous pensons les causes de Seigneur. Que tu dis dans la parole que celui qui croit être vie, de faire garde à ton esprit. Que nous prenions garde à ne pas tomber.
Je vais décaler.
Sois béni.
Est un Dieu puissant et à 3, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je le redis, l'eau de vie qui vient de Jésus-Christ. Eh ben, elle trouve sa source du trône de Dieu et de l'agneau. Donc l'agneau, c'est Jésus. Et cette eau de vie, elle se verse sur nous, Seigneur Jésus. Et elle nous donne la vie. Et elle nous guérit. Elle nous restaure. Et c'est dans cette eau vive qu'on vient. C'est dans cette eau vive qu'on veut rester. Et je vous invite juste à chanter ce chant qui dit que ma coupe déborde. C'est dans la continuité de ce qu'a dit Christophe. On veut crier à Dieu la délivrance, on ne veut pas rester comme on est, c'est pas possible. On veut plus de lui. On refuse de rester enchaîné par quoi que ce soit. Que ce soit des habitudes, que ce soit un caractère, que ce soit toute addiction. Tout ça, c'est pas à la gloire de Dieu et on veut changer. Donc je vous invite vraiment à chanter ça avec un cri, avec un cœur qui crie à l'Éternel. Je veux changer, je veux plus de toi. Je veux pas rester comme je suis. Seigneur, me voici.
Seigneur, me voici. Assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir.
On va redire là, on va reprendre ce passage. Seigneur, me voici.
Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici
assoiffé de ta présence,
assoiffé de ta présence.
Père, entends nos cris,
Père, entends nos cris.
Celui de la délivrance,
celui de la délivrance. Oh. Je veux ta rivière. Je veux ton amour afin de devenir.